Seigneur m'a donné ces paroles d'encouragement pour nous, ses enfants, en même temps avec quelques paroles d'exhortation quant à notre l'attitude qu'il veut que nous ayons dans cette nouvelle année qui va s'ouvrir aussi devant nous, bientôt, dans quelques jours. Alors voilà ce que le Seigneur me disait de vous dire. Mes enfants, nous sommes ses enfants, apprenez à vous rassasier de mes bontés, que je renouvelle chaque matin pour vous, dit le Seigneur. Apprenez à vous rassasier de mes bontés. Soyez attentifs aux bontés de l'Éternel qui ne s'épuisent jamais. Amen. La parole de Dieu qui le dit. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ma bonté est grande envers ceux qui me craignent. Quel verset ! Psaume 103. Ma bonté est grande envers ceux qui me craignent, pour ceux qui mettent tous leurs espoirs en moi. Je suis riche en bonté, dit le Seigneur. Il est très riche en bonté, le Seigneur. Ma bonté et ma fidélité vous garderont toujours. Elles vous serviront d'appui dans ces temps difficiles de la faim. N'attendez aucun appui des hommes, même si occasionnellement je me sers de certains d'entre eux pour vous aider. N'attendez-vous qu'à moi et à moi seul. Je suis pour vous un Père infiniment puissant, un Dieu infiniment sage, et mon amour pour vous ne variera jamais.
Merci, Seigneur.
Repassez continuellement mes bontés à votre égard dans votre cœur. Sentez, nous dit la parole de Dieu, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. La bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. C'est sans limite. Alors que nous puissions faire cette prière avec le psalmiste, Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. Puissions-nous le dire ensemble avec le psalmiste. Éternel, on va le dire ensemble. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux. Psaume 103, 17. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. Psaume 36. C'est grandiose, on ne mesure même pas. Ces paroles, elles sont tellement puissantes, tellement fortes. Et on a tendance à oublier que Dieu est bon. Parce qu'on a des combats dans cette vie qui sont parfois difficiles les uns et les autres. On a tous nos combats terribles. Mais il ne faut pas qu'on oublie l'essentiel. C'est que notre Dieu est bon. Et que sa bonté ne finira jamais. Et que sa bonté continuera toujours à notre égard. Pour ceux qui le craignent. Toujours. Ne finiront jamais. C'est extraordinaire. Et puis, donc, ces paroles pour ceux parmi nous qui cherchent à comprendre la raison de certaines circonstances dans notre vie, que nous ne comprenons pas toujours parce que Dieu agit, est souverain et qu'il agit comme il veut. Alors, il nous dit à chacun de nous qui pensons que ne pas comprendre pourquoi certaines choses nous arrivent. Le Seigneur nous dit, puisque tu es mon enfant, sache que c'est moi qui règle les circonstances de ta vie. Rien dans ta vie n'est le fruit du hasard. S'il m'arrive de te mettre dans une situation dont tu ne saisis pas le sens, ne cherche pas à diriger ou prévoir les choses toi-même, à éviter ceci ou à te méfier de cela. Fais-moi confiance. Tu as mis ta vie entre mes mains. Ne pense donc pas que ce que tu traverses est étrange. Cela fait également partie de mon plan d'amour pour toi. Ce qui te semble étrange fait partie de mon plan pour toi. Il est bon pour toi d'attendre en silence le secours de ton Dieu. Je l'ai eu hier après-midi, hier soir, elle a confirmé ça aussi. Elle a eu la même pensée en même temps, pour ainsi dire. Ouais. Ça, c'est, je trouve ça très beau. Je voudrais, dit le Seigneur, être l'alpha et l'oméga dans ta vie. Être à la fois le premier consulté et aussi celui qui aura le dernier mot. Car je veux faire concourir toutes choses pour ton bien. Je suis encore et toujours celui qui t'entend, celui qui te secoue, et je ne reste jamais sourd à tes cris. Confie-toi en mon amour qui reste parfait pour toi, même lorsque tu ne connais pas l'issue du chemin sur lequel tu marches. Ma main puissante saura gérer chacune de tes circonstances. Et puis, pour cette parole pour une personne qui se trouve devant une impossibilité, comme une route barrée. Mon enfant, nous dit le Seigneur, je t'accompagne dans tes moments les pires et tes moments d'extrême faiblesse. Je te comprends. En venant dans ce monde, j'ai fait face, dit le Seigneur, à deux impossibilités humaines. Première impossibilité humaine, naître dans le sein d'une vierge. C'était une impossibilité à laquelle Jésus a fait face. Deuxième impossibilité, laisser un tombeau vide derrière moi. C'est le seul. J'ai fait face à ces obstacles apparemment insurmontables. Et parce que je les ai vaincus, tu as maintenant cette glorieuse espérance d'une vie éternelle auprès de moi dans la sérénité. Lève donc les yeux vers moi, le vainqueur de toutes les impossibilités. Merci Seigneur. Alléluia Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons te bénir Seigneur, parce que tu as fait face à des impossibilités toi aussi, en venant dans ce corps d'homme. Seigneur, merci. Merci pour ces paroles d'encouragement.
Oh oui, merci Seigneur.
Seigneur, tu nous montres que tu es un Dieu bon.
Amen.
Et que pour toi, il n'y a pas d'impossibilité. Tu les as toutes vaincues puisque tu as vaincu la dernière impossibilité, le tombeau vide que tu as laissé derrière toi. Alléluia,
oui,
Seigneur.
Merci Seigneur.
Quelle victoire. Eh bien, Seigneur, nous voulons te faire davantage confiance pour nos impossibilités, celles que tu connais à chacun d'entre nous. Nous en avons certainement tous, d'une façon ou d'une autre, dans un domaine ou un autre, où nous avons vraiment de la peine à en voir l'issue. Seigneur, nous ne marchons pas en aveugle, nous suivons un maître qui sait où il va.
Amen.
Et nous avons mis notre main dans la tienne et tu nous conduiras pas après pas sur le chemin de la victoire, sur les impossibilités, d'une façon ou d'une autre. Seigneur, à toi revient toute la gloire et la puissance. Tu nous aimes et tes bontés se renouvellent chaque matin. Nous voulons en vivre de tes bontés, nous réjouir de tes bontés. C'est notre espérance, Seigneur, ta bonté, qui ne finissent jamais et qui nous sont accordées si fidèlement, jour après jour, que nous en soyons conscients ou pas, tu es là Seigneur et tu nous fais bénéficier de ta bonté, de tes bontés. Sois loué, adoré, élevé dans nos cœurs.
Oui,
et
Seigneur,
nous voulons vivre cette journée encore en
oui,
comptant
Seigneur,
sur tes bontés.
Amen.
Tu es riche en bonté Seigneur. Amen.
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 Amen. Merci.
Ce matin, j'avais cette pensée, je ne comprenais
oui,
pas
oui.
pourquoi.
Oui.
C'était dans la Lamentation 3 et au verset 21.
Mm-hmm.
Voici ce que je peux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance.
Oui, bah
les
c'est
bontés
ça.
De l'Éternel c'est... ne sont pas épuisées. Ses compassions
voilà.
ne sont pas à leur
terme. Yes.
Elles se renouvellent
c'est beau,
chaque
ça.
Matin que ta fidélité est grande.
Amen.
Merci Seigneur. Tu vois, on était dans le même esprit, c'est le même esprit. Hein. Il a parlé à Corinne, il te parle et il me parle. Et puis on est dans ce même esprit, c'est ça qui est merveilleux. On se complète.
J'ai entendu ça, j'ai
ah oui, c'est ça, c'est merveilleux ça. C'est tellement beau.
C'est extraordinaire.
Oui, c'est beau ça. Ouais.
Merci Seigneur.
C'est pour ça que nous sommes un corps, tous ensemble. Tous ensemble, un corps, une âme devant le Seigneur.
Seigneur, merci en effet.
Amen.
Merci Seigneur.
C'est toi le maître et nous sommes tes serviteurs.
Oh oui, Seigneur.
C'est ta volonté que nous voulons faire et non la nôtre.
Amen, Jésus.
Parce que la tienne est toujours bonne, agréable et parfaite.
Oui, Seigneur.
Merci, Seigneur. Révèle-nous encore ta volonté par ta parole. Maintenant, merci pour toutes ces promesses, pour toutes
oui,
ces
gloire à toi.
Paroles qui est là, notre si nourriture, riche, notre si nourriture.
Amen.
Nous voulons nous en nourrir,
oh,
Seigneur.
Oh oui, Seigneur, amen.
Car tes paroles sont esprit et vie.
Oui.
Aide-nous encore à comprendre, à mieux comprendre ta parole. Et sur ces vérités de Noël, de ton incarnation ici-bas, Seigneur, aide-nous à comprendre encore les vérités que nous devons mieux comprendre, mieux saisir, afin de mieux t'honorer et de mieux te glorifier dans notre témoignage.
Amen.
Merci, Seigneur. Oui. Aide-nous, nous comptons sur le ministère du Saint-Esprit
Amen.
Pour nous conduire dans les plans que tu as pour nous. Ouvre notre esprit, mon esprit, pour saisir ce que tu veux nous dire, Seigneur. Car la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie.
Amen.
Merci, Seigneur. Amen.
C'est parce que tu es vivant que tu nous parles, que tu parles au milieu de nous.
Amen.
Aux uns comme aux autres, et que tous ensemble, tous ensemble, tu nous parles au travers de ton esprit et de ta parole.
Oui,
Seigneur, sois loué et béni.
Amen.
Amen.
Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Comme nous vivons cette période de Noël, il est bon de méditer sur ce sujet. On a bien sûr tous des pensées un peu générales là-dessus, mais il y a des vérités qui doivent s'imprimer en nous, s'incruster en nous, parce que l'incarnation de Jésus est une vérité extraordinaire. Parce que toutes les autres vérités qui suivent la vie de Jésus dépendent de cette incarnation. Celui qui ne croit pas à l'incarnation, il fait fausse route dans tous les autres domaines. Dans tous les autres domaines des vérités bibliques, il fait fausse route. C'est pourquoi il est bon d'avoir, de réaliser ce que Dieu a fait et comment célébrer Noël finalement. Comment aussi le célébrer. Parce qu'on a, quand on comprend bien, alors à ce moment-là, on se réjouit. On dit, ah, j'ai compris quelque chose. Tout de suite, on est content. C'est ce qui s'est passé ici, par exemple avec les bergers, on va parler un peu d'eux ce matin. Ils ont compris quelque chose, ils ont saisi quelque chose, et sont partis en louant et bénissant Dieu dans leur champ pour aller paître les brebis. Donc ça s'est bien terminé parce qu'ils ont compris quelque chose d'important. Alors comment célébrer Noël? Comment célébrer Noël? Alors, nous savons que le monde fait complètement fausse route de ce côté-là, n'est-ce pas vrai? Et on ne parle pratiquement pas du Seigneur, et le Seigneur c'est toujours le petit bébé, n'est-ce pas? Il n'a pas grandi, il est toujours là, et un bébé, vous n'avez pas d'ordre à recevoir d'un bébé, c'est vous qui donnez des ordres. Ce qui fait que l'homme maintenant est tellement arrogant que Jésus, c'est un petit bébé, il n'a rien à nous dire. Il doit se soumettre à nos plans à nous. L'humanisme a pris un tel ascendant que, voilà. Et on aime bien le maintenir, un bébé. Parce qu'après, s'il grandit tout, il nous dérange après. Il risque de nous déranger. Il faut bien attention à ce que notre Jésus est encore un petit bébé, qu'on laisse bien dans la crèche. Qu'on aime bien. Ça, je t'aime bien. Mais là, seulement.
Reste
là.
À ta place.
Tu bouges pas trop. Après, ça me dérange. Ça va plus. Si tu me déranges, ça va pas. Et pourtant, Noël, c'est le grand chamboulement.
Bien sûr.
C'est la révolution.
Bien sûr.
Parce que l'homme en a besoin. Et parce que le monde est dans la détresse, esclave du péché et esclave du diable. Dieu a vu cet esclavage de l'homme. Il a vu qu'il ne s'en sortait pas. Il a vu qu'il était dans l'illusion. Il pense, il va directement dans l'abîme. Et il ne s'en rend pas compte, il est en train de danser. Il ne sait pas qu'au bout du chemin, c'est l'abîme. Et il danse. Et il s'amuse. Et il va comme ça. Oh, mais puisqu'il ne voit pas l'abîme, il n'y a pas d'abîme. Quand tu y seras, tu verras que ça existe. Mais ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Donc, Noël a des vérités importantes. Et pour cela, on va lire Luc chapitre 2. Et les versets au début, c'est important. On va lire à partir du verset 1er, Luc 2. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. On reviendra là-dessus tout à l'heure un petit peu pour trouver là une première vérité importante. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, c'est au nord ça, de Bethléem, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem. Et de Nazareth à Bethléem, il y a environ 40 à 50 kilomètres. Donc là, ils ont été bousculés, mais vous allez voir que quand Dieu est là, même nos imprévus, même nos circonstances un peu difficiles, nos plans qui changent, il y a une main au-dessus de tout cela. Appelé Bethléem parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Quelle parole terrible. Il y avait dans cette même contrée des bergers. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Ça se termine comme cela, en louant, glorifiant Dieu, parce que tout ce qu'on leur a dit, tout ce que les anges ont dit, tout ce qu'ils ont vu aussi avec Joseph et Marie, tout était exact. Donc tout se passait vraiment, ils sentaient que, ils remarquaient que la vérité était là, c'était quelque chose d'authentique. Et quand on est dans la vérité, automatiquement, il y a toujours une joie intérieure. On est content parce qu'on est dans la vérité. Mais à partir du moment où on sent qu'il y a le doute concernant la vérité, la joie disparaît. La louange disparaît. Il y a comme un voile qui descend sur nous. Et il en est ainsi des hommes qui ne peuvent pas vraiment se réjouir parce que la vérité n'a pas fait leur œuvre en eux. La vérité n'a pas pénétré leur cœur. C'est peut-être dans leur tête. Noël, c'est dans leur tête. Qui n'a pas entendu parler de Jésus dans sa tête? Mais il fallait que ça descende dans le cœur. Et nous voyons que tous ceux qui, dans les évangiles, là au début, ont vu Jésus, ont rencontré Jésus, il y a eu un bouleversement. Les bergers, les mages, quand ils ont vu le Seigneur, ils se sont courbés et ils ont adoré. Ensuite, Siméon, quand on lit un peu plus loin, quand il a vu l'enfant, il a dit, Seigneur, tu me laisses aller en paix maintenant. Il a vu la main de Dieu. Anne, la prophétesse, elle aussi, quand elle a vu cela, elle s'est courbée. Elle parlait de Jésus partout. Tous ceux qui ont rencontré Jésus ont été bouleversés. Mais seulement ceux, bien sûr, dont le cœur était bien disposé. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes de bonne volonté. Ici, bienveillance aux hommes, mais le sens est bonne volonté. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Ah oui, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. Il faudrait traduire plutôt paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Donc plutôt aux hommes qui sont bien disposés. Et nous voyons que dans tout ce récit, tout le monde n'était pas bien disposé. Hérode n'était pas bien disposé. Les pharisiens, les sadducéens n'étaient pas bien disposés. Beaucoup de gens n'étaient pas bien disposés. Est-ce que Dieu s'est révélé à eux? Non. Il ne s'est pas révélé à n'importe qui. Il aurait voulu le faire, mais il ne pouvait pas le faire. Et il s'est révélé à d'autres personnes. Et c'est curieux, ça commence avec les bergers. On va revenir là-dessus. Pourquoi les anges s'adressent d'abord aux bergers? Pourquoi? Il y a une raison là, nous allons le voir. Mais d'abord, comment célébrer Noël? Une première vérité doit toujours être dans notre cœur. On célèbre Noël en réalisant que Dieu contrôle toutes choses, et spécialement les nations. Ça, c'est une vérité qui est objective, là, c'est pas directement le fait. Mais il faut réaliser une chose. On peut vraiment fêter Noël quand on réalise que Dieu contrôle les nations. Pourquoi je vous dis cela? Ici, vous l'avez remarqué, au verset premier. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Et vous savez qu'à ce moment-là, Rome, c'était la nation qui dominait le monde. C'était la nation la plus puissante à ce moment-là. Et fermée. Et opposée, bien sûr, à tout ce qui était de Dieu. Et malgré tout cela, au sein de telles circonstances, Jésus est venu. On aurait pu dire, comme les circonstances n'étaient pas favorables, tout était fermé. Les Romains dominaient tout. Toutes les portes étaient fermées dans les ténèbres. Il est tout cela. Et puis même lui est dépassé maintenant. Il y a un Brian McLaren. Il dit qu'il faut réinventer l'Église. Dans les églises évangéliques. Et quand vous lisez de tels livres qui existent, c'est pas eux qui vont vous dire que la Bible est la seule parole de Dieu. Ils trouvent toujours quelque chose qui ne va pas dans la Bible. Ah, il y a ça qui ne va pas, oui, c'est bien, c'est la parole de Dieu, mais... Alors, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Alors, ils doutent de la parole de Dieu comme étant l'autorité finale. La conversion, eux, c'est plus la conversion, c'est maintenant des pratiques mystiques. Ils nous conduisent dans des pratiques mystiques
Brian McLaren. C'est un livre, plusieurs livres. C'est, il fait des dégâts énormes. Et beaucoup de prédicateurs, comme ils sont tombés les pieds joints avec eux, avec Rick Warren, ils tombent aussi là-dedans. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Où allons-nous? Parce qu'on ne veut pas faire de vagues. Eh bien, on est en train de couler. La situation est grave.
Oui.
Pauvre Paul. Il n'avait pas Freud pour l'aider. Pauvre Paul, pauvre Seigneur, tu as dit que sans toi, on ne pouvait rien faire. Tu es donc un menteur. Parce que beaucoup dans les églises aujourd'hui qui font du Freud. Il faut qu'il soit là. Alors ce sont des païens eux-mêmes. Et Jung, il pratique lui-même des choses occultes. Où on va? D'où allons-nous? Qui se réveille? On ne veut pas faire des vagues. Et d'autres, c'est la parole. Là, j'ai parlé de ce qui se passe dans nos églises. D'autres, c'est la parole plus la tradition. La tradition de l'église. Un dimanche, je prends la Bible. Mais, en plus, qu'est-ce qu'il y a? La tradition. Est-ce que ça n'existe pas? Dans les églises officielles, c'est ce qu'on entend. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet-là? Vous anéantissez le commandement de Dieu au profit de votre
tradition.
Et en général, dans ces églises-là, officielles, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est la tradition qui a le dernier mot. Et la parole. On dit, mais on y croit! Mais c'est tout dans la tête. Mais c'est la tradition. Ah oui, mais ça, c'est comme ça. C'est comme ça, dans mon église, c'est comme ça. Ah oui, c'est quoi ça là? Ah oui, mais on... Donc, tu es converti à une église, mais tu n'es pas converti au Seigneur.
C'est ça.
Si tu es converti au Seigneur, tu obéis à sa parole. C'est parce que tu es converti à l'église, à une église, que tu obéis aux traditions de l'église.
Eh oui, eh oui.
Mais cela ne te sauve pas.
Eh non.
Cela ne te sauvera jamais.
Jamais.
La parole plus la tradition. Vous anéantissez le commandement de Dieu au profit de votre tradition. Est-ce qu'il y a un danger là? Bien sûr. Si Jésus nous avertit, c'est qu'il y a un danger. Et puis d'autres, c'est l'expérience avant la parole. Avec ce qui s'est passé par exemple à Toronto et puis même maintenant, avec ces Brian McLaren et tout cela, c'est l'expérience qui vient avant la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là disent, ah oui, mais moi, j'ai fait une expérience avec Dieu, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Alors ils pensent que parce que ça leur a fait du bien, ça vient forcément de Dieu. Mais si cette expérience n'est pas biblique, tu dois la rejeter. Parce que le diable aussi peut te donner des bons sentiments. Vous n'avez pas compris ça? Il est temps de le comprendre. Le diable peut te donner de bons sentiments. Un jour... Nous étions sur le parking d'un grand supermarché en France, chez nous, à Chambéry. Bon, il y a bien 20 ans de ça, à peu près. C'était du temps où il y avait les gourous, là, sur le Maharaja, tout ça.
Ah oui.
C'était la grosse vague, à ce moment-là. Sur le parking, d'un seul coup, je garais ma voiture. Et puis, je vois un jeune homme, complètement mystique, comment dirais-je, survolté. Et il est venu vers moi, vers nous, comme ça. Il me dit, mais... Et vous savez, le Maharaja, il est Dieu. J'ai dit, mais c'est un homme. Il est non, c'est extraordinaire. Mais c'est un homme. Qu'est-ce qu'il peut te faire? Voilà. Il est l'incarnation de l'amour. Comme pour dire, voyez-vous, il a ressenti des effluves d'amour en contact avec ce faux Christ. Voyez-vous comme le diable peut donner de bons sentiments? Si vous dites, ah oui, mais moi, cette expérience-là...
Même d'amour. Hein?
Si ce n'est pas une expérience biblique, elle doit être rejetée. Sinon, le diable jouera avec tes sentiments.
Et voilà.
Et tu risques de complètement dévier. Et la parole, qu'est-ce qu'il y a encore avec la parole? Jésus a dit qu'il ne fallait pas s'en dévier, s'en séparer.
Oui, oui.
Et maintenant, il y a la parole plus les nouvelles révélations des prophètes. Peter Wagner, un autre pasteur dans les milieux charismatiques, il est le responsable de beaucoup d'églises où il consacre des apôtres et des prophètes. Et leur parole a autant de valeur que la parole de Dieu. Quand ils vous disent, donne des prophéties, mais pour eux, c'est la parole même de Dieu. Ils mettent leur révélation au même niveau que la parole, et même certains au-dessus de la parole. Alors voyez-vous, on est là-dedans. Et parce que soi-disant c'est un apôtre ou un prophète, beaucoup de chrétiens s'inclinent. Il ne faut pas toucher à loin de Dieu. Vous n'avez pas entendu ça? Il ne faut pas toucher à loin de Dieu. C'est un passage dans l'Ancien Testament, de David par rapport à Saül. Mais vous savez ce que le mot toucher, le verbe toucher veut dire? Tuer. Ça n'a rien à voir avec essayer de toucher, de dire quelque chose sur lui. Au contraire, David même a repris Saül à plusieurs reprises. Et vous, on veut nous faire croire que, en disant qu'il ne faut pas toucher loin de l'Éternel, qu'il ne faut rien lui dire. On n'a pas le droit. Qui sommes-nous pour parler à un prophète ou un apôtre? Vous voyez comment la manipulation est sérieuse? Dans le texte, ce n'est pas toucher, c'est tuer. Effectivement, il a dit, c'est Dieu qui s'en chargera. S'il doit être mis de côté, Dieu s'en occupera, n'est-ce pas vrai? Mais lui, il ne s'est pas tué. Il a dit ce qu'il fallait dire. Mais maintenant, on veut nous faire taire. Et beaucoup de chrétiens sont muets. C'est le mutisme. En Calabre, c'est quoi la loi du silence? C'est quoi déjà? Comment on appelle ça? La loi du silence? Là? L'omerta.
Ah oui.
Exactement, l'omerta. Beaucoup de chrétiens sont sous cette loi-là maintenant. L'omerta. Omerta. Non, non. Rien dit. Non. Même quand c'est tout faux. Non. Faut pas toucher à loin. Et voilà, et c'est comme cela que nous dévions, que nous sommes prisonniers des hommes, esclaves des hommes. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez fermes dans cette liberté.
Amen.
Des hommes, des prédicateurs veulent vous lier. Amen. Et vous conduire sur leur chemin. Bon, maintenant, allons un peu plus loin. Deuxième vérité. Un vrai converti, donc voyez-vous, c'est ça un vrai converti, hein? Seulement la parole de Dieu, autorité finale. Souvenez-vous, il y a seul et final. Parce que tout le monde, ces gens-là vous diront tous qu'ils croient à la parole de Dieu. Mais quant à l'autorité finale, niet. Ça, c'est non. Il y a des nouvelles révélations, chacun peut avoir son petit truc. Et c'est ça le piège. C'est là le piège. Deuxièmement, un vrai converti, il croit que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit dans Actes 17, 3, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir, ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Alors là, il y a une vérité très importante, que Jésus est Dieu lui-même. Il est le Christ, c'est-à-dire loin de Dieu, que le Père a envoyé dans ce monde pour nous sauver. Il est unique. Et aujourd'hui, la grande tentation, c'est d'abaisser Jésus à notre niveau. C'est faire Jésus d'un homme et des hommes des dieux. Il y a même un enseignement qui dit, Dieu est devenu homme pour que nous les hommes, nous devenions des dieux. Regardez où on va. La divinité de Jésus, celui qui ne croit pas que Jésus est Dieu, il ne peut être sauvé. Il y a donc ici aussi la vérité de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Celui qui ne croit pas en la Trinité n'est pas sauvé, ne peut être sauvé. Donc, Paul a pris le temps d'établir cela parce que c'était des judaïsants. Pour eux, Jésus, c'était un rebelle. Il n'avait rien de... Il ne l'acceptait pas. Pourquoi? Parce qu'il pensait que le Messie, quand il allait venir, il allait délivrer les Juifs de l'oppression romaine. Et comme ce Jésus qui vient, loin de les délivrer de l'oppression romaine, se laisse lier et puis aller à la mort. Alors, ils ont pris des prophéties, la prophétie qui les arrangeait. Mais la Bible nous dit, voyez-vous encore, quand on prend des textes hors de leur contexte, la Bible dit que Jésus devait d'abord venir comme un agneau avant de revenir comme un lion. pour régner. Il devait d'abord venir comme un agneau pour donner sa vie. Et ensuite, il reviendra pour juger les nations et dominer le monde. Amen.
Amen.
Jésus est le Fils de Dieu.
Amen.
Et quand Dieu nous dit que nous sommes des fils de Dieu, des enfants de Dieu, nous le sommes par adoption. Nous ne sommes pas des petits dieux. Il y a un prédicateur, c'est Copeland, je crois, qui dit ça. Vous n'avez pas un Dieu en vous. Vous êtes Dieu vous-même.
Eh oui.
Un autre prédicateur, Maurice Cérullo, dans un de ses messages, disait, quand vous me regardez, qui est-ce que vous voyez? Vous ne regardez pas.
Vous voyez Dieu.
Jésus. Vous ne voyez pas Maurice Cérullo. Vous voyez Dieu.
Vous voyez Dieu.
Puisqu'on est fils de Dieu.
Ah oui.
Et il prêche là comme une révélation.
Ah oui.
Que beaucoup n'acceptent pas. Et c'est la séduction et le piège total.
Mm-hmm.
On en est là. Mm-hmm. Et l'autre piège est celui-ci. Voyez-vous, la personne de Jésus, on cherche toujours à la défigurer, dévaloriser.
Mm-hmm.
Et certains charismatiques et même d'autres disent que quand Jésus est né, quand il est venu sur la terre, il a perdu sa
divinité.
Quand il était sur la terre, il n'était plus Dieu, il était homme rempli du Saint-Esprit. Mais il n'était plus Dieu.
Mm-hmm.
Oui, tout ça, ce sont des doctrines que beaucoup de prédicateurs prêchent, surtout dans les milieux charismatiques. Si vous ne savez pas ça, vous allez à la dérive avec eux. Quand Jésus est né sur cette terre, il n'a jamais perdu sa divinité. La gloire qu'il avait auprès de son Père, il l'a mise de côté. Mais jamais sa divinité. Qui d'entre vous me convaincra de péché? Silence, tais-toi. Lazare, sors.
S'il n'était pas Dieu.
Ce n'est pas un homme qui parle. C'est Dieu lui-même.
C'est sûr. Ah oui, évident.
Quelle est votre conception de Jésus? C'est un point extrêmement important. Et si Jésus, vous le comparez, vous le faites croire qu'il a besoin de quelqu'un d'autre, encore pour revenir à Freud, qu'il a besoin d'un Freud pour que l'évangile pénètre, eh bien votre conception de Jésus est fausse.
Elle est petite. Oh, oui.
Elle dévalorise Jésus.
Oui.
Elle déshonore la personne de Jésus.
Bien sûr.
Un vrai converti, Jésus est unique. C'est le Fils du Dieu vivant. Que son nom soit béni.
Amen.
Si nous sommes enfants de Dieu, c'est par adoption. Mais nous restons toujours des créatures.
Mm-hmm.
Il est lui, le Créateur.
Amen.
Troisième point. Il croit que seul le sacrifice parfait de Jésus sur la croix peut ôter ses péchés. Il croit que seul, encore une fois, le sacrifice parfait de Jésus sur la croix peut ôter ses péchés. Qu'est-ce qu'il est dit? Dans son explication, toujours la référence, acte 17.3, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir. Soulignez bien, voyez-vous ici. Devait souffrir. Donc la croix est là. Et Paul a pris le temps de prêcher la croix à ses Thessaloniciens. Il devait souffrir. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas pardonner ses péchés lui-même.
Eh non.
La Bible dit que notre justice est comme un linge souillé aux yeux de Dieu.
Mm-hmm.
Et vous savez ce que le mot souillé veut dire? Dans le texte, le mot souillé est en rapport au linge que les femmes avaient pour quand elles avaient leur menstruation. C'était donc quelque chose de souillé et d'impur. Et la Bible dit que notre justice est comme ce linge souillé. Impur. Et combien aujourd'hui encore pensent que tout va très bien, ils ne sont pas si pécheurs que ça, ils ne sont pas si mauvais que ça, et ils n'ont jamais réalisé qu'ils sont pécheurs en rébellion contre Dieu. Et Jésus n'a-t-il pas dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Un jour, j'avais lu le témoignage de deux hommes, un avocat et un docteur, qui s'étaient convertis. Le docteur, il s'était converti assez vite, comme cela. Il n'a pas eu trop de problèmes pour se convertir. Mais l'avocat, lui, il avait de la peine. Et le docteur, plus tard, est venu vers lui. Il a dit, mais pourquoi tu as eu tant de peine? Il a dit, moi, je ne sais pas. En tout cas, moi, je sais pourquoi tu as eu tant de peine. Comme tu es avocat, au lieu de plaider coupable, tu as plaidé innocent. Et tant que tu plaidais innocent, Dieu ne pouvait pas te pardonner. Parce qu'il est venu pour pardonner des coupables. Et effectivement, il dit, c'est quand j'ai enfin accepté ma culpabilité et mon état de perdition devant Dieu que Dieu a pu me pardonner. Et il y a tout le message de la croix. Et aujourd'hui encore, le message de la croix, on ne le comprend pas. Dans les ténèbres. J'étais dans le nord de la France, jeune homme encore. On faisait du porte-à-porte. Et quelqu'un dans la maison a dit, c'était une femme qui souffrait beaucoup. Et elle savait ce qu'elle m'a dit, écoutez monsieur, cette femme a tellement souffert. Si elle qui a tant souffert, elle ne sera pas sauvée, alors personne ne sera sauvé. Ce sont ses souffrances. Mais ce ne sont pas nos souffrances qui nous sauvent. Ce sont ses souffrances. Mais l'homme essaye toujours de s'arranger lui-même, de se valoriser. J'avais lu aussi cette histoire d'un peintre. Il voulait peindre le fils prodigue. Et il cherchait toujours une personne dans la rue ou autre qui ressemble un peu à ce fils prodigue. Donc délabré, dégnié, tout mal habillé. Et vraiment qu'il fasse vraiment, qu'il y ait une triste mine. Et pendant longtemps, il a cherché, il n'a pas trouvé. Et d'un seul coup, un jour, il voit un vagabond, un clochard, je ne sais pas comment on dit ici, c'est ça?
Un sans-abri.
Oui, sans-abri, un vagabond, un clochard. Et qu'il y avait des trous partout, sales, complètement, les cheveux jusqu'ici. Alors là, c'était vraiment l'image du fils prodigue. Il lui a dit, toi, viens ici, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour quelque chose de précis. Il pensait pour son tableau, pour qu'il vienne dans son cabinet pour qu'il puisse peindre. Alors viens me voir demain après-midi, je t'attends. Je suis le peintre untel, tu viens là. Et le vagabond, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il veut me... Et il ne lui a pas dit pourquoi. Et il dit, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Dégonillé, sale comme je suis. Je vais quand même pas me présenter comme ça chez lui. C'est pas possible. J'ose pas. Et vous savez ce qu'il a fait? Il est allé se laver. Il est allé se couper les cheveux. Il est allé changer d'habit.
Voilà.
Et il est allé chez le peintre. Il a frappé à la porte. Le peintre ouvre la porte. Bonjour monsieur. Comment monsieur? Vous m'appelez monsieur? C'est moi! Vous m'avez vu hier. Vous m'avez dit de venir. Mais monsieur, c'est pas comme ça que je vous ai dit de venir. Je vous ai dit de venir tel que vous étiez. Mais j'ai pas besoin de vous maintenant. Moi, c'est pas quelqu'un comme ça que je veux. J'en ai des centaines et des milliers dans les rues. C'est pas ça que je veux. Et il est reparti, tout triste. Et nous aussi, pour nous présenter devant Dieu, on fait tout pour...
Pour lui plaire.
Pour lui plaire. Et faire croire qu'il y a toujours en nous quelque chose qui peut plaire à Dieu pour être accepté par lui.
Par lui.
Avez-vous remarqué? Toujours. Oui, je suis pécheur.
Mais
pas si mauvais que ça quand même. Pas si mauvais. Je suis pécheur, mais je ne suis pas quand même si méchant que ça. Et on essaye toujours de se blanchir, n'est-ce pas?
Ah ben voilà.
Quelqu'un qui parle comme cela n'a pas compris le message de la croix, ne connaît pas son propre cœur. Et ne le voit pas, ne se voit pas tel que Dieu le voit. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Tant que vous vous justifiez vous-même, Dieu ne vous justifiera jamais. Tant que vous vous excusez pour votre péché, Dieu n'excusera jamais votre péché. Tant que vous vous excusez vous-même pour votre péché, Dieu ne pourra pas vous excuser votre péché. Comment faut-il s'approcher ? Aie pitié de moi, le fameux le péché, le publicain. Aie pitié de moi qui suis un pauvre pécheur, perdu, qui mérite ta condamnation. On dit souvent, on ne mérite rien, si ? On mérite ta condamnation divine. C'est la condamnation divine qu'on mérite. Et tant que quelqu'un n'a pas dit, je suis perdu, je mérite la condamnation, si je ne me repens pas, je vais en enfer, il n'a pas compris l'évangile.
Eh oui, c'est ça.
Le message de la grâce est pour ceux qui réalisent qu'ils sont perdus dans leur péché, morts dans leur péché. Il n'y a pas de grâce pour celui qui ne se repent pas, qui ne réalise pas qu'il est perdu. Et aujourd'hui, des multitudes encore croient à ce mensonge. Ah, mais je ne suis pas si mauvais que ça. Et on se compare toujours aux autres. Mais ce n'est pas aux autres qu'il faut se comparer, c'est à Dieu et à sa parole. Ah, tu penses que tu n'as jamais rien fait de mal ? Tu n'as jamais fait de mal ? Tu as désobéi au premier commandement de Dieu. Comment ça ? Vous ne me connaissez pas et vous me dites que j'ai désobéi au premier commandement ? Oui ! Le premier commandement de Dieu dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Est-ce que tu l'as fait ? Est-ce que tu as aimé Dieu comme cela ? Si tu dis oui, il faut que je te prenne tout de suite en photo. Tout de suite, et que je te montre un peu en France et partout où nous allons dans le monde et dire, nous avons rencontré quelqu'un au Canada qui a aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. C'est un phénomène. Mais nous savons que personne. Et tu as donc enfreint le premier commandement. Donc tu es un pécheur. Tu es perdu. Et c'est quand l'homme s'écrie, je suis perdu. Je ne peux me sauver moi-même. Je mérite l'enfer. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Quand nous acceptons cette culpabilité que nous sommes perdus, Dieu nous dit maintenant, regarde à la croix. Ta condamnation, Jésus, lui, l'a portée. Mais il a été blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors on comprend quelque chose de la croix. On commence à dire, ah bon, Seigneur, ce sont mes péchés qui t'ont crucifié. Un jour, je lisais le témoignage d'un homme qui pensait être juste et qui n'avait pas besoin de se convertir ou de se repentir. Et dans son rêve, il a eu un rêve. Et il s'est vu, il a vu quelqu'un qui était en train de flageller Jésus. Et il était en colère. Il dit, qu'est-ce que c'est que cet homme-là qui est en train de flageller Jésus ? Celui-là, c'est un gars terrible, méchant. Et à un moment donné, l'homme s'est retourné dans le rêve. Et vous savez qui c'était ? C'était lui-même. Lui-même. Et il a compris là que ce sont ses péchés qui ont crucifié le Maître. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Lui, l'innocent, est mort pour nous coupables. Lui, le juste, est mort pour nous injustes. Quand nous comprenons cela, alors, nous disons, Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi de tous mes péchés, je m'abandonne à toi et je t'accepte comme mon sauveur personnel. Amen. Et tout change, il est désormais ton sauveur. J'avais lu aussi le témoignage d'une prostituée Quelqu'un lui a prêché l'évangile. Et lui a dit que son péché, bien sûr, était extrêmement grave devant Dieu, mais que Dieu l'aimait encore. Et que Jésus est mort sur la croix pour pardonner ses péchés. Et que Dieu voulait lui pardonner. Quand elle a entendu ce récit de l'amour de Dieu pour elle, alors qu'elle était pécheresse, elle s'est écriée, « Si Dieu m'a aimé à ce point-là pour me sauver, alors à partir de maintenant, il est mon sauveur et je change complètement ma façon de vivre. Je ne serai plus jamais la même personne. » Voilà le message de la croix. Mais combien disent « Jésus est mon sauveur et le sauveur ?» Mais il n'y a pas de changement. Le péché, il y a les péchés véniels, les péchés mortels. Alors on est toujours dans les péchés véniels. C'est toujours les autres qui font plus de mal, mais nous on n'en fait pas beaucoup. Et là, on est en train toujours de se mettre de la pommade dans le dos. Et on dit aux gens, venez, Dieu vous aime. Dieu veut vous pardonner. Mais on ne leur dit pas pourquoi. On ne leur montre pas qu'ils sont pécheurs. Quand on veut guérir quelqu'un, c'est parce qu'il y a une maladie. Alors maintenant, on parle de la guérison sans parler de la maladie. Venez, Dieu vous aime. Mais on ne parle pas de la maladie, du péché, qui détruit les gens. Ah non, si on parle du péché, ils ne viendront plus à l'église. Ils ne viendront plus. Ils croient que le sacrifice de Jésus, seul, peut ôter ses péchés. Ce ne sont pas tes prières, ni tes larmes, ni ta religion. Rien. Si la religion pouvait sauver, Jésus n'aurait pas besoin de venir sur cette terre, n'est-ce pas vrai? Il y en avait déjà des milliers de religions. Et en plus, le judaïsme pouvait aussi sauver, n'est-ce pas vrai? Alors, si tu crois qu'une religion peut sauver, cela veut dire que j'ai, dans ta tête, tu accuses Jésus en disant « Tu es venu mourir pour rien du tout. » Tu es mort pour rien, puisque ma religion peut me sauver encore. Si Jésus est mort, c'est parce que notre religion ne peut pas nous sauver. C'est parce que tu ne peux pas te sauver toi-même et que tu as besoin d'un sauveur. Et une fois que tu es un sauveur, tu n'as plus besoin de religion.
Et voilà.
Pouvez-vous dire amen à ça?
Oui.
C'est important, oui. Mais il faut le comprendre. Et la preuve que tu l'as compris, c'est que tu changes après. Mm-hmm. C'est que tu n'es plus la même personne. À partir de maintenant, c'est fini.
Voilà.
Je suis une nouvelle personne. Jésus est mon sauveur, mon Seigneur. Et sa parole est ma lampe sur ma route. Une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. Je crois que cet après-midi, j'apporterai la suite. Parce que je ne veux pas bâcler encore, j'ai beaucoup de choses importantes
à dire.
Voilà, c'est ça. Mais il était important de s'attarder là-dessus, n'est-ce pas vrai?
Mm-hmm, très.
Et de réaliser une fois pour toutes que la religion ne sauve pas.
Personne.
On ne naît pas chrétien, on le devient.
Oui.
On le devient. En se repentant de ses péchés et en croyant que seul le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia. Amen. Ainsi restons dans cet esprit-là. Mm-hmm. Il y aura encore des vérités très importantes que nous allons voir cet après-midi. Que Dieu vous bénisse. Mm-hmm. Restons dans la prière. Seigneur, merci.
Alléluia,
pour ta parole qui est la vérité.
Amen.
Sanctifie-nous par la vérité. Aide-nous à bien saisir ces vérités.
Amen.
Et surtout à les mettre en pratique. Mm-hmm. Nous puissions, Seigneur, écouter ta parole et la mettre en pratique. Tu as dit un jour, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis. Nous voulons être de ceux qui obéissent, Seigneur, et non pas de ceux qui ont ton nom dans la bouche, mais qui ne t'ont pas dans leur cœur. Mm-hmm. Et de nous, Seigneur, à vivre une vraie conversion et à être convertis à toi et non à une église, mm-hmm, qui ne sauve pas et qui ne sauvera jamais. Mm-hmm. Il n'y a qu'un sauveur, c'est Jésus.
Amen.
À ton nom soit toute la gloire. Puisque tu es Dieu,
oui, Jésus,
tu mérites notre adoration aussi. Nous voulons nous courber devant toi, oui. Sauveur de notre âme, Seigneur de notre vie. Nous sommes à toi, je suis à toi. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Je veux être un vrai converti, dont le témoignage portera du fruit. Seigneur, et s'il y a quelques erreurs, quelques déviations, quelques incompréhensions, sonde mon cœur, afin que je puisse corriger ce qui doit être corrigé, que je sois assez humble pour demander pardon et reconnaître mon erreur. Car tu as dit toi-même, celui qui s'élève sera baissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Nous voici, Seigneur. C'est à toi qu'un jour nous aurons des comptes à rendre.
Oh oui.
Et si tu n'es pas notre sauveur aujourd'hui, tu seras notre juge demain. Aide-nous à être sérieux avec ta parole, afin que cette parole agisse en nous, comme nous l'avons lu, pour les Thessaloniciens. Et à ton nom seul soit toute la gloire. Merci pour l'œuvre merveilleuse du salut. Merci pour l'homme nouveau que tu crées lorsque quelqu'un se convertit à Jésus-Christ. Il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Ton œuvre est parfaite. À ton nom soit toute la gloire, dès maintenant et à jamais. Amen.
Amen. Alors que je frappe à la porte de ton cœur, te dit le Seigneur, je viens de te parler et j'attends que tu m'ouvres la porte, que tu me permettes d'entrer dans ta vie et dans ton cœur. Alors que tu entends ma voix, et tu viens de l'entendre, n'endurcis pas ton cœur.
Amen.
Viens à moi tel que tu es.
Oh oui.
Ne cherche pas à mériter quoi que ce soit. Viens tel que tu es. Et si tu estimes, selon ce que tu viens d'entendre, que tu as gâché ta vie, perdu ta vie passée, eh bien, il est encore temps de revenir. Avant que le grand jour du jugement n'approche pour toi, donne-moi ton cœur, donne-moi ta vie, celle qui te reste à vivre. Viens à moi repentant, parce que moi je t'ai aimé, je me suis livré sur la croix pour toi à cause de ton péché. Maintenant j'attends une réponse de ta part. N'hésite pas. Ne permets pas à ton cœur de s'endurcir un peu plus. Car plus tu attendras, et plus ton cœur s'endurcira.
Alléluia.
Viens à moi alors que je t'appelle aujourd'hui. Et le Seigneur voudrait nous exhorter, nous chrétiens, à être plus courageux, plus déterminés dans notre vie. Combien souvent nous nous laissons arrêter par quelques défis?
Ah voilà maintenant. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Gardait et repassait. Vous pouvez souligner là parce qu'il y a une vérité aussi importante. Marie gardait et les repassait dans son cœur. Et la vérité importante ici, c'est qu'on fête Noël en cherchant à comprendre tout ce qui concerne Christ, à chercher à comprendre. Vous voyez ? Ça va un peu plus loin que tout à l'heure. On est étonné, mais maintenant, on va plus loin. La réflexion la pousse jusqu'à l'extrême. Et puis, dans le texte grec, vous savez ce qui est la pensée qu'il y a ici ? C'était de garder toutes ces choses ensemble, et de les comparer ensemble comme un puzzle. Vous savez, comme un puzzle, on met les pièces ensemble pour voir l'ensemble et mieux comprendre. Eh bien, l'idée est là. C'est l'idée d'un puzzle. Et Marie était en train de mettre chaque pièce du puzzle en place, dans sa tête, pour voir comment toutes ces choses s'harmonisent, se complètent. Certains ne font pas ça. Ça prend du temps, ça. Un puzzle, vous êtes d'accord avec moi, quand on joue au puzzle, ça prend du temps. Et puis parfois même on se décourage et on arrête. Et on se dit, oh, mais voilà, il y a tellement de pièces que tant que vous les avez pas mis ensemble, c'est quelque chose de rébarbatif qui vous décourage. Vous dites, ben, ça vaut rien, ça. Mais le puzzle dévoile sa beauté, son harmonie à celui qui persévère. Et Marie, c'était ça. Elle passait, repassait dans son cœur. Elle mettait en place tout ce qu'elle entendait par les bergers, par les anges, par Élisabeth. Elle entendait tout ça. Et elle essayait de cet un puzzle qui était en train de se mettre en place. Et elle dit, tiens, ça, oui, il faut mettre ça là. Ça, c'est ça, ça, c'est ça. Et voilà. Et après, elle a vu le spectacle. Et elle a vu la beauté de ce puzzle. Quelque chose qui venait de Dieu. Et c'est pourquoi elle a été vraiment cette servante que Dieu a pu utiliser. Parce qu'elle était complètement soumise à son Dieu. Et que ainsi Dieu a pu accomplir tout son plan dans sa vie. Amen. C'est ça. Sixièmement, elle passait, repassait. Passons et repassons, mes amis. Bien souvent, notre vie est comme un puzzle. Il nous manque des pièces. Et on se demande où est, réfléchissons, telle circonstance dans notre vie peut compléter une autre, peut s'harmoniser avec une autre. Et comme on l'a entendu, il n'y a pas de hasard avec Dieu. C'est Dieu qui met tout en place dans ta vie. Si tu lui fais confiance, tu verras que la main divine était là. Et met en place tout ce puzzle dans ta vie. Et pour finir, ce sera quelque chose de merveilleux. Comme Paul, on pourra dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice me sera réservée. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. N'est-ce pas merveilleux? Il a vu le puzzle. Toute l'œuvre que Dieu a faite dans sa vie. Jusqu'à la dernière pièce qui a été placée. Et tout était magnifique. Fêter Noël, c'est cela. C'est réaliser. Penser, prendre du temps pour comparer les choses, les mettre ensemble et voir le plan de Dieu, non pas juger quelque chose à ce qu'on voit maintenant, ce que tu ne comprends pas maintenant, Jésus a dit à ses apôtres, tu le comprendras plus tard, fais confiance. Il y a tant de choses qu'on ne comprend pas maintenant. Ne prends pas de décision maintenant sur quelque chose que tu ne comprends pas, fais confiance à celui qui est en train de mettre le puzzle en place dans ta vie.
Oui, c'est ça.
Ne dis pas, ah, là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout. Comme si Dieu se trompait. Non, toutes les pièces ne sont pas encore là.
Ne sont pas en place.
Les confiants ne sont pas en place. Mais il est en train de les mettre.
Ben voilà.
Ne te décourage pas.
Voilà.
Fais confiance. Marie, c'était ça.
Oui.
C'est beau, n'est-ce pas?
Oui, très bien.
Pas? Oui, il y avait une qualité merveilleuse en elle.
Ah, oui, oui.
On n'ose pas parler de Marie à cause du catholicisme, là, qui ont fait n'importe quoi. Ils en ont fait une déesse,
oui,
alors qu'elle s'appelle une servante. Mais il y avait des qualités merveilleuses.
Oui, les vrais leçons.
Qui ont fait que...
On ne les connaît pas, celles-là.
Qui ont fait que... elle a pu avoir la grâce d'enfanter le Seigneur. Et ce n'était pas n'importe qui. Qui pouvait être choisi pour ça.
Non, elle avait des qualités.
Elle avait des qualités extraordinaires. Et il y en a quelques-unes ici. Elle passait et repassait tout ce qu'elle entendait.
Non.
Oui, oui. Un puzzle était en train de se mettre en place. Et pour terminer, quand le puzzle est en place, qu'est-ce qui se passe après? On arrive à la septième vérité concernant Noël. Et les bergers s'en retournèrent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Glorifiant et
louant.
Voilà. Quand le puzzle est en place, on ne peut que
adorer,
remercier le Seigneur pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur était
annoncé.
Alors, septièmement, comment fêter Noël? En glorifiant le Seigneur, en le louant pour ses œuvres merveilleuses et en le louant par la foi aussi. Pour déjà pour ce qu'il a fait, mais plus tard, pour autre chose que nous ne voyons pas encore. Et les verbes glorifier et louer sont au présent ici. Ça veut dire que ça doit être une attitude continuelle. Et qu'on doit continuer de le glorifier et de le louer. Et en faisant comme cela, eh bien, le puzzle se mettra en place. Et Dieu sera glorifié. Ils s'en retournèrent. Tout était conforme. À la fin de notre vie, qu'on puisse dire, Seigneur, tu ne t'es pas trompé, tout était conforme. J'ai rien à te dire, rien à te redire. Tout est parfait, Seigneur. Tout est parfait. Si j'ai fait, s'il y a eu des erreurs, c'était de mon côté, mais jamais du tien. Seigneur, tu es merveilleux. Je te fais confiance. Quelles que soient les circonstances adverses ou favorables, je suis à toi. Tu ne te trompes jamais. Et ils s'en retournèrent. Ils retournèrent dans leur champ, en louant, en bénissant le Seigneur. Et nous, on retourne à nos activités, complètement transformés par ce que nous avons vécu. C'est quelque chose qui n'est pas un feu de paille, mais c'est un feu qui brûle en nous et qui continue de brûler jusqu'à son retour. Et c'est un feu que nous devons alimenter par notre obéissance, par notre soumission, par notre repentance quand il le faut, par le pardon, par l'humilité. Tout cela alimente le feu de notre amour pour le Seigneur. Et ils s'en retournèrent, glorifiant Dieu. Glorifiant. Ça veut dire qu'il n'y en a pas deux comme toi. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux.
Amen.
Si on a quelque chose contre Dieu, on ne peut pas le louer. Vous êtes d'accord avec moi?
Ah ben non,
c'est ça. Alors c'est du bout de l'air. Et quand on sait qu'il est parfait, alors là, ça explose. Ça jaillit.
Oui.
C'est le seul qui mérite cela, c'est le Seigneur.
Amen.
C'est le seul. Tu ne te tromperas jamais en le faisant. Amen. Mais si tu ne le fais pas, tu bloques, tu mets des pierres sur le feu qui est en toi. Amen. Tu mets des pierres et la flamme commencera à baisser. Veille à ce que cette flamme ne disparaisse pas entièrement. Tout était conforme. Rien à redire. À Dieu seul soit toute la gloire,
amen.
Dès maintenant et à jamais.
Amen. Amen.
Merci pour ta parole.
Alléluia.
Merci pour ces exemples des uns et des autres.
Oh oui, Jésus.
Tu nous montres comment ils ont vécu Noël. Et tu nous exhortes à vivre Noël aussi dans le même esprit. Quelle bonne disposition il y avait en eux. Pour que le ciel s'ouvre devant eux, pour que le ciel soit touché par leur disposition intérieure d'humilité et de soumission. Trouve en nous, en moi, cette disposition-là, Seigneur.
Oui.
Afin que ce puzzle soit complet un jour. Et que je puisse et que nous puissions nous présenter devant toi dans la louange et dans l'allégresse. Sachant que ton œuvre a été parfaite en nous, pour ta seule gloire.
Oui.
Merci Seigneur. Nous voulons passer, repasser toutes ces vérités dans notre cœur. Être étonné de ce que tu fais. Car beaucoup ne sont plus étonnés de ce que tu fais. Pardonne-nous Seigneur, toute routine. Nous ne sommes plus étonnés parce qu'il devrait nous étonner. Et nous sommes étonnés parce qu'il ne le devrait pas l'être. Merci de nous sonder, de nous purifier, d'enlever les pierres encore qui peuvent empêcher cette flamme de briller comme elle devrait être. Aide-nous pour ta seule gloire. Complète ton puzzle en nous, Seigneur, pour ta seule gloire. Amen.
Amen. Oui, nous voulons te dire une fois de plus, Seigneur, que tes plans sont parfaits, que tes voies sont parfaites et que tu ne te trompes jamais. Si nous ne comprenons pas certaines choses, c'est parce que les morceaux de ton puzzle ne sont pas en place encore. C'est tout. Mais nous voulons te dire que nous voulons continuer de te faire confiance.
Amen. Amen.
Et de croire, continuer de croire
Amen.
Que nos vies sont dans ta main et tu conduiras les choses pour le bien d'eux.
Amen.
Pour notre bien.
Amen.
Et pour ta gloire, afin que ta gloire soit manifestée dans notre vie. C'est ce que c'est ton désir, c'est que tu sois glorifié au travers de nous, de notre vie. Non pas que nous soyons glorifiés, que les hommes soient glorifiés d'une façon ou d'une autre, mais que toi, tu sois glorifié. Combien de fois tu as dit aussi dans ta parole, Alain qui a dit, cette maladie n'est pas à cause de la faute de l'un ou de la faute de l'autre, cette maladie. C'est pour ma gloire. C'est parce que je veux me glorifier. Donc, telle et telle circonstance aussi, tu nous dis la même façon, c'est parce que je veux me glorifier au travers de cette circonstance-là. Seigneur, sois béni. Nous nous inclinons devant toi et nous te reconnaissons comme Maître et Seigneur de nos circonstances, de notre vie. Sois béni. Parce que en toi et dans ta main, nous sommes en sécurité.
Amen.
Parfaite. Et nous ne voulons pas douter de cela. Tout va bien dans ta main.
Amen.
Et nous voulons surtout y rester dans ta main.
Oui.
Ne pas sortir de ta main, du creux de ta main.
Oui.
D'aucune façon.
Amen.
Seigneur, aide-nous si nous éloignons quelque peu, si nous égarons parfois, à revenir vite, vite dans le creux de ta main. Sois loué parce que tu es patient avec tes brebis.
Merci.
Tu es patient, tellement patient. Nous t'aimons et nous savons que nous sommes aimés de toi.
Amen.
Amen.
Et c'est l'essentiel pour nous.
Amen.